France Musique.
Merci Dominique Boutel.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it?
Yes, sir.
Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because I'll be you girls or bitches?
I guess. Yeah,
I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
It's on.
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back, with one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Bertrand Blier en tenue de soirée. Bonsoir. Pour fêter Noël et bientôt la nouvelle année, Cinéma Song a mis les petits plats dans les grands, puisqu'en guise de cadeau, notre invité est ce soir et la semaine prochaine, le cinéaste Bertrand Blier, grand amoureux de musique en tout genre, au cinéma mais aussi dans la vie. Alors que vient de ressortir chez Music Box Records la bande originale de Tenue de soirée augmentée d'inédit, l'auteur de Calmos ou des Valseuses se raconte et raconte son cinéma en musique. Ce soir, pour un premier épisode, il nous parle de Sidney Bechet, Miles Davis, Georges Delerue, Kenny Clarke, Serge Gainsbourg, Stéphane Grappelli ou Pascal Dussapin. Je vous avais prévenu, ce soir, c'est bien Noël dans Cinéma Song. Mais en attendant Bertrand Blier, mon actualité, c'est d'abord ceci.
Thank you.
J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et je me suis dit que pour démarrer cette émission, il fallait mettre une musique énergique qui réveille un peu ceux qui seraient tentés de s'endormir. C'était l'ouverture, la musique qui s'appelle Overture, extrait de la bande originale de Whiplash, signé Justin Hurwitz. Le film est sorti hier, la bande originale elle est disponible chez Vares Sarabande. Et pour les amateurs de jazz, ce film, le deuxième film de Damien Chazelle, est quand même un petit événement. Il n'y en a pas très fréquemment des événements, je dirais, liés au jazz et au cinéma, en tout cas des événements contemporains, on en parle beaucoup, y compris ici. Mais là, c'est un film qui se passe, donc qui est tout à fait d'aujourd'hui, qui a eu le Grand Prix au Festival de Sundance et au Festival de Deauville. Et c'est un film qui se passe donc dans les milieux des écoles de jazz, des conservatoires de jazz, et ici plus précisément à New York, l'histoire d'une relation très ambiguë entre un éducateur qui ressemble plus à au sergent de Full Metal Jacket qu'à, disons, un prof de musique traditionnelle, et puis un jeune batteur, un apprenti batteur de 19 ans qui est très doué, mais qui doit encore, d'une certaine façon, accéder à un autre niveau. Et ce professeur essaye justement de lui donner les armes. Évidemment, ça tourne mal. Il y a une forme de sadisme dans cette pédagogie. Le film est captivant comme un thriller. Il est construit d'ailleurs d'une manière très très habile, avec beaucoup de savoir-faire scénaristique. Et puis, il filme très très bien également les scènes de batterie, alors aussi bien en big band que parfois sur les entraînements personnels que peut avoir le personnage principal. Il faut dire que le réalisateur Damien Chazelle était lui-même batteur dans une école de jazz, donc il sait de quoi il parle, même s'il a dit n'avoir pas eu un professeur aussi dur que celui qu'il a mis en scène dans son film. Voilà, donc en tout cas, même si on peut avoir des réserves quant à l'éloge de cette sorte de pédagogie et disons au culte de la performance qui sont des éléments très américains, le film est d'une grande efficacité, très passionnant pour ceux qui aiment le jazz, comme disaient nos amis Daniel Filippacchi et Franck Thénault sur une autre radio il y a bien longtemps. Et voilà, il est suffisamment rare d'avoir un film où la musique en plus joue un rôle important et qu'elle est très bonne. Il y a évidemment des standards comme Caravan ou le Whiplash du titre qui était en fait originellement un morceau de Hank Levy, mais également des morceaux originaux donc signés Justin Hurwitz comme celui que vous venez d'entendre. Alors voilà le film à voir un peu pour cette fin d'année avant que nous passions à l'année 2015, mais enfin je pense qu'il sera encore à l'affiche en 2015 et je pense que le film peut marcher, ce qui n'est pas fréquent là non plus pour un film sur le jazz. On va rester justement dans les liens avec le jazz et le cinéma avec un coffret dont on n'avait pas eu le loisir de parler jusqu'ici, alors qu'il est sorti plutôt à l'automne dernier. C'est un coffret chez Frémaux Associés qui s'appelle Le Jazz à l'écran, Hollywood, New York, Paris, Turin, 1929-1962. Trois CD, une compilation extrêmement bien faite d'occurrences du jazz au cinéma. Alors on en connaît un certain nombre, évidemment, il y a des morceaux extrêmement fameux, mais il y a aussi des choses un peu plus rares. Et en tout cas, l'objet est extrêmement bien fait avec un livret très pléthorique et très intéressant. Et je disais, oui, donc il y a des classiques, mais il y a également des choses plus rares. Évidemment, comme on connaît bien les classiques dans cette émission, j'ai choisi des choses, justement, des raretés, ou en tout cas des morceaux qu'on entend moins souvent, et en particulier un morceau de Peggy Lee, la chanteuse Peggy Lee, extrait d'un film qui s'appelle Pete Kelly's Blues, de Jack Webb. Jack Webb jouant le rôle principal dans ce film des années 50, mais qui se passe dans les années 20. Et dans ce film, on voit, entre autres, comme chanteur à l'écran, Peggy Lee, donc, mais également Ella Fitzgerald. J'ai choisi Peggy Lee.
He needs me, he doesn't know it, but he needs me, and so no matter where he goes, though he doesn't care, he knows I'm there, he needs me. I ought to leave him, but he needs me. I guess it isn't very bright just to tag along, but right or wrong, I'm here, I'm his. And I'll be a friend or a lover, because my one ambition is to to wake him and make him discover he needs me. I've got to follow where he leads me, or else he'll never know that I need him just as he needs me. Sugar, I call my baby my sugar. I never maybe my sugar. That's why my baby is so confectionary funny. I never plead for his money, 'cause when I feed him on honey, I get my needs every time. I'd make a million trips to his lips if I were a bee, 'cause they are sweeter than any candy to me. He's granulated sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine. Sugar, sugar, that sugar baby of Thank you.
extrait de la bande originale du film The Subterraneans, Les Souterrains en français, film de Ranald McDougall avec Leslie Caron et George Pippard en 1959. Et la musique en était signée André Prévin, ou André Prévin si on le prononce à la française. C'est un extrait du coffret Le Jazz à l'écran, donc chez Frémo et associé, trois CD remarquablement compilés, donc de morceaux de jazz liés au cinéma. Voilà, donc cette musique n'est pas parmi les plus fameuses du jazz au cinéma, précisément. On connaît évidemment mieux Henri Mancini, par exemple, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps ici même, ou Miles Davis et consorts, on pourrait dire. Il y a beaucoup d'exemples de bandes originales intéressantes et très célèbres, ou en tout cas assez célèbres, de jazz au cinéma, mais celle-ci n'en fait pas partie. Pourtant, c'est une remarquable BO donc, de André Prévin, avec un extrait donc, dans ce coffret, puis auparavant, de chansons interprétées par Peggy Lee dans le film Pete Kelly's Blues de Jack Webb en 1955, It Needs Me et Sugar, donc ça c'est encore plus rare, et c'est un film donc qui pour les amateurs de jazz au cinéma mérite d'être vu, puisque le film se passe dans les années 20, mais le héros est un trompettiste de jazz joué par Jack Webb lui-même, et ça figure donc cet extrait ainsi que deux autres d'ailleurs du même film, mais notamment Ella Fitzgerald qu'on peut voir également dans ce film. Donc ça figure tout ça dans le coffret Le Jazz à l'écran, je le répète, chez Frémo et Associés. Et pour revenir sur le morceau que vous venez d'entendre de André Prévin, on peut quand même citer quelques solistes, puisque c'est important dans ce film, et notamment Jerry Mulligan, qu'on voit d'ailleurs en Cher et en Os jouer de la musique dans ce film, puisque c'est une adaptation d'un roman de Jack Kerouac, avec évidemment le milieu du jazz beat et bop qu'on retrouve dans ce film. On y retrouve également dans cette bande originale Art Farmer à la trompette, ou Bill Perkins au saxophone ténor, ou Art Pepper au saxophone alto, c'est-à-dire la fine fleur du jazz West Coast, ça tombe bien, puisque le film se passe précisément en Californie. Alors on va terminer cette séquence d'actualité en attendant de retrouver Bertrand Blier, et on va terminer par Un Américain à Paris, Un American in Paris, qui est à l'affiche au Châtelet jusqu'au 4 janvier. Alors j'ai voulu m'associer à cette... Bon, ça fait depuis un petit moment, depuis le 22 novembre, que la comédie musicale est représentée au Châtelet, mais la bande originale du film est également ressortie par la même occasion cet automne chez Milan, donc je voulais m'associer à cet hommage à Gershwin, à cette grande comédie musicale qui avait été mise en scène par Vincente Minnelli, le grand Vincente Minnelli, bien sûr, au début des années 50, avec notamment Gene Kelly, Leslie Caron, dont je parlais juste avant, et puis également notre chanteur d'opérette nationale, Georges Guettari. On va écouter un extrait de cette bande originale avec Gene Kelly et le MGM Children's Chorus, I Got Rhythm, en duo de Gene Kelly et des enfants.
I got
rhythm,
I got
music,
I got
my gal, who could ask for anything more. Daisy,
I got
in green pastures,
I got
my gal, who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door.
Vous comprenez ça?
Non. I got
rhythm,
I got
music,
I got
my gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? J'ai du rythme, j'ai de la musique, j'ai ma chérie, who could ask for anything more? J'ai des daisies dans green pastures, j'ai ma chérie, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him, you won't find him hanging round my door.
Comprenez ça maintenant?
No. I got, I got, I got,
who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
Got Rhythm, un standard de George and Ira Gershwin, interprété donc ici par Gene Kelly, et le MGM Children's Chorus, c'était pour la bande originale du film de Vincente Minnelli, Un Américain à Paris. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous payer un ticket au Châtelet ou la comédie musicale donc, qui est représentée jusqu'au 4 janvier, et ben vous pouvez toujours acheter ce CD qui vous permettra de réentendre tous les morceaux qui sont dans ce très très beau film de Minnelli, ou revoir bien sûr le film qui est très facilement accessible en DVD. Traveling, le thème principal du film Tenu de soirée de Bertrand Blier, signé Serge Gainsbourg, ce thème en 1986. Et on écoute ce thème, bien sûr, parce que Bertrand Blier est notre invité d'honneur ce soir dans Cinéma Song, et la semaine prochaine également pour parler musique, cinéma et tutti quanti, si je puis dire. Et cette bande originale, donc, elle vient de ressortir, celle de Tenu de soirée, elle vient de ressortir chez Music Box Records, donc un label qu'on aime bien dans Cinéma Song, dans une version augmentée avec pas mal d'inédits. Morceau qu'on n'avait jamais entendu, on connaissait surtout le thème qu'on vient d'écouter, mais on découvre qu'il y a beaucoup d'autres thèmes dans ce film. Alors certains ont été utilisés par Bertrand Blier, d'autres pas, mais en tout cas, c'est une édition passionnante de cette musique relativement rare, Tenue de soirée, donc Bertrand Blier 1986, on s'en souvient bien, Gérard Depardieu, Miu Miu et Michel Blanc qui formaient un trio assez fameux, qui faisait écho bien évidemment à d'autres trios dans le cinéma de Bertrand Blier, comme ceux formés par la même Miu Miu avec Gérard Depardieu également, mais Patrick Devers dans Les Valseuses, ou Carole Laure, Patrick Devers et Gérard Depardieu dans Préparez vos mouchoirs. On aura l'occasion d'en reparler ce soir ou la semaine prochaine. Je vais laisser la parole tout de suite à Bertrand Blier, puisque c'est lui notre invité pour cette soirée, non pas de Noël, enfin de Noël, oui, du 25 décembre, qui va nous parler d'abord, avant toute chose, de ses débuts dans la musique en tant qu'auditeur, de ses passions de jeunesse qui étaient déjà nombreuses, et notamment pour le jazz. On a parlé de jazz en début de cette émission. Bertrand Blier va prolonger ce propos tout de suite.
France Musique.
Il y a une chose que j'ai pas souvent racontée, c'est qu'en fait, ma mère, qui était une femme discrète, était une très bonne pianiste. Et donc, elle jouait, mais elle jouait presque professionnellement. Et elle avait arrêté à cause de la guerre. Mais avant, à 16 ans, 15 ans, elle donnait des petits concerts. Enfin, j'ai pas beaucoup d'informations très précises là-dessus, mais... Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de documents, comme il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait rien. Mais ma mère jouait Chopin admirablement. Et donc, c'est des souvenirs d'enfance très émouvants où il y avait un grand piano chez mes parents. Et elle jouait, je la suppliais pour qu'elle joue, parce qu'elle disait non, j'arrête, ça me fatigue et tout. Mais bon, elle s'y mettait, je la forçais. Et elle jouait admirablement Chopin, ce qui est quand même assez difficile à jouer. Et ça m'est resté. Donc, est-ce que j'avais une bonne oreille déjà à cette époque-là, ou j'en sais rien, mais probablement une attirance, et qu'elle aussi avait ça. Donc c'est un héritage qui me vient, un des rares qui ne me vient pas de mon père, mais qui me vient de ma mère, qui est ce goût pour les notes, pour la musique. Et après, j'ai découvert tout seul, parce que mon père n'était pas amateur de... Il avait une installation dans son bureau, bien sûr, mais il achetait très peu de disques, il n'en écoutait pas beaucoup, alors il mettait les bandes bourgeois, puis voilà... ou les quatre saisons, mais c'était pas son truc. Lui, c'était un homme de livres et de spectacles. Mais... Donc j'ai découvert par la suite des choses dans ses placards. J'ai découvert 2-3 disques qui m'ont impressionné. Il achetait quand même les disques à l'époque qui s'appelaient les Clubs des discophiles, qui était un des disques de très haute qualité classique, qui me faisait écouter, où il y avait des choses extraordinaires, comme par exemple le premier enregistrement de Divnat qu'on avait en vinyle. Oui, j'avais quand même une petite attirance pour la musique qui s'est développée par la suite.
Bertrand Blier.
Quand j'ai été ado, où j'ai découvert le jazz et où je ne sais pas pour quelle raison, je me suis pris de passion pour cette musique et je suis devenu un toxico grave de jazz.
Et vous alliez dans les clubs
Pas trop, mais j'avais énormément de disques. Comme mon père avait beaucoup de relations dans les milieux du disque, il me faisait livrer des cartons, j'avais des fonds de commerce extraordinaires, ça, et j'en achetais aussi. Et j'en écoutais énormément, et j'avais un Tepas dans ma piole qui était toujours très chaud. Et je me suis pris de passion, donc c'était les bonnes années, c'était les années entre 50-60, c'était où le jazz était à son maximum. Donc je me suis fait des Olympias, oui, je me suis fait quelques concerts, évidemment, mais jusqu'au moment où ça m'a quitté, parce que le jazz m'a quitté, parce qu'il y a eu Coltrane, parce qu'il y a eu des gens qui ont massacré. Et qui ont massacré, enfin, ça continue, mais ça n'a plus été ma musique. Je suis passé à Bach, à Mozart, et à une musique plus conforme à la culture traditionnelle.
Est-ce qu'il y avait des musiciens qui, dans les années 50, justement, soit début 60, qui vous ont marqué particulièrement dans le jazz?
Moi, j'ai tout vu. J'ai été, par exemple, au millionième disque de Sidney Bechet à l'Olympia, où il a joué pendant 4 heures d'affilée avec 2 orchestres pour le soutenir, qui alternaient, c'est-à-dire qu'il y avait André Révéliotti d'un côté et Claude Luther de l'autre, 2x5. Et ils jouaient chacun à leur tour pour soutenir Bechet, qui jouait non-stop, c'est-à-dire qu'il a joué de 21h à 1h du matin. L'Olympia a été cassé, là, tous les fauteuils détruits et tout. C'était incroyable. Longtemps avant le rock. Et puis j'ai vu Duke Ellington, j'ai vu Armstrong, j'ai vu tous ces gens-là, évidemment, Count Basie. Et puis j'ai vu surtout Miles Davis, enfin les grands concerts, le Modern Jazz Quartet, tous ces gens-là, Lionel Hampton, j'en ai vu pas mal. Je me démerdais toujours pour avoir des places, je ne sais plus comment, parce que mon père avait un copain qui était journaliste, qui avait des cartes de presse, et on passait par derrière à l'Olympia, on rentrait par les loges.
Thank you.
Vocation de metteur en scène est venue assez tard, je devais avoir 16 ou 17 ans, donc j'ai eu le temps d'écouter du jazz avant, et j'allais au cinéma comme tous les gens de cet âge-là, mais je voyais 3 films par semaine, mais enfin bon, c'était pas en cinéphile, je les voyais en gamin qui peut voir des westerns et des polars, quoi. Mais le jazz, j'ai commencé à en écouter, oui, vers 14 ans.
Quand c'était pas forcément lié, par exemple, Ascenseur pour l'échafaud, ce genre de choses, ont pas eu une importance particulière pour vous?
Ascenseur pour l'échafaud a eu de l'importance, oui, parce que c'était quand même très, très impressionnant. Ce film, absolument, quand il est sorti, c'était magique. Pour des gamins, c'était de 18 ans, je sais pas l'âge que j'avais.
Bertrand Blier.
Il y a eu des films comme ça qui sont sortis en vrac. Pendant 2-3 ans, il y a eu tout qui est sorti, quoi. Il y a eu La Nouvelle Vague, mais il y a eu Louis Malle avant, même Vadim faisait des trucs sympas, comme Sait-on jamais, avec le Modern Jazz Quartet sur Venise, l'hiver et tout ça. Toutes ces choses-là m'avaient énormément séduit. Et évidemment, quand j'ai entendu Miles Davis jouer sur le visage de Jeanne Moreau et de Maurice Ronet dans l'eau, dans le film de Louis Malle, c'était pour des jeunes, c'était jamais vu. C'était... D'ailleurs, ça s'est pas tellement refait. Hein.
Thank you.
vous démarrez avec Hitler connaît pas en 62, vous êtes un tout jeune cinéaste. C'est un documentaire, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, une sorte d'essai.
On ne peut pas l'appeler, ouais, parce que c'est ça un correspond peu particulier, à rien. Oui.
Qui ne ressemble pas forcément d'ailleurs à ce que vous avez fait ensuite,
non.
En tout cas à partir des années 70. Et là, donc, il y a un peu de musique, et c'est une musique qui est signée Georges Delerue, que vous rencontrez. Donc,
Je suis allé voir Delerue parce que j'avais été très secoué par Hiroshima, mon amour. J'ai compris pratiquement tout le cinéma en voyant ce film-là, quoi. La musique, le montage, tout. Et je suis allé voir Georges Delerue qui était jeune et pas très connu encore, et qui m'a très gentiment fait une musique. Il n'y en a pas beaucoup, il doit y avoir 5 minutes aussi. Voilà, c'était ma première expérience. Il avait la très jolie idée de faire un quatuor à cordes accompagné par une section rythmique de jazz. Donc ça associait mes goûts différents et contradictoires.
Avant même de parler de la musique de Delerue, comment vous aviez eu l'idée de mettre de la musique dans ce film qui, au fond, ne s'y prête pas spécialement, puisque c'est, pour résumer, des entretiens avec des jeunes gens qui sont un peu plus jeunes que vous à l'époque, mais qui parlent de leur vie, finalement. La musique n'est pas forcément, évidemment, appelée par le dispositif du film.
Oui, mais je ne me souviens plus. Je pense que je me suis posé la question.
Bertrand Blier.
Et j'ai dit à mon producteur, est-ce qu'il faut de la musique ? Il m'a dit, on ne savait pas. Donc on a été voir Delerue, on lui a dit, regarde le film, Georges, et dis-nous. Et il nous a dit, il n'y a pas besoin de musique, mais un petit peu, ça serait sympathique. Donc voilà, il avait raison, il fallait un petit peu de... comme une caresse, quoi, comme un petit accompagnement. Un film sans musique, c'est triste quand même. Enfin, il y en a des grands, hein, mais...
Il faut que ce soit un choix absolument...
Ben oui, quand c'est le trou de Jacques Becker, ça va, mais... La musique, c'est un vrai problème au cinéma, parce qu'on est envahi par la musique. Donc les films sont envahis, particulièrement dans le cinéma américain. Donc il faut se battre pour garder des silences. La meilleure musique, c'est la musique qui s'arrête quand même au cinéma. Et dans la vie aussi, d'ailleurs. Hein, je ne suis pas contre qu'elle s'arrête. Complètement, qu'on la coupe complètement. Pourquoi je vous parle de ça à cause de Delerue et de Hitler connaît pas. Oui, c'était bien cette petite arrivée de musique parce qu'elle était très très en douceur.
Un peu plus de 10 ans plus tard pour Calmos, mais là dans un tout autre registre.
Oui.
Mais dans une musique qui est plutôt de tonalité assez jazz.
Oui, alors c'était une aventure incroyable, parce que je vais... les valseuses, j'ai pas appelé Delru, parce que j'ai eu l'obsession d'avoir Grappelli. Donc Grappelli, il a fait tant bien que mal la composition des thèmes. Et puis quand j'ai fait Calmos, j'avais une envie de musique symphonique, j'avais envie d'un gros truc. Tout était gros dans ce film, alors il fallait de la grosse musique. Donc j'ai appelé Georges Delru et il a vu le film, ou d'abord lu le scénario, je ne sais pas, et j'avais l'idée de Slam Stewart, qui était un musicien que je connaissais pour avoir ses disques, et j'avais envie de ce son-là. On a souvent envie d'un son, on ne sait pas quelle musique ça va être, mais on a envie d'un instrument, d'une tonalité.
Bertrand Blier.
J'avais envie de ce mec qui jouait la contrebasse à l'archer. Delru m'a dit, je lui ai donné les disques et... Ça l'intéressait et on a contacté Slam Stewart et on l'a fait venir à Paris avec sa contrebasse. Et en arrivant, il nous a dit très penaud, vous savez que je ne sais pas lire la musique. On lui a dit, c'est pas grave. Et donc, on a enregistré en deux fois, c'est-à-dire qu'on a fait un enregistrement de jazz avec un quintet, avec des stars, et puis dont Slam Stewart. Et ensuite, Delru a fait venir l'Orchestre de Paris et a fait une musique symphonique qu'on a remixé et qu'on a envoyé dans le casque de Slam Stewart, qui a écouté ça, le mixage, et il avait des larmes qui coulaient comme ça. Ce grand noir extrêmement classe, âgé déjà, qui avait joué dans les années 30, enfin qui était une star dans les années 30, il était bouleversé. Et la musique, c'est une des seules musiques de mes films qui a été un peu tubesque, parce que j'ai passé beaucoup à la radio, il y avait un morceau qui était assez réussi et qui passait.
Oh, mes enfants, que se passe-t-il? Je vais. Chère sœur, que le Seigneur soit avec vous. Toute ma vie, j'ai vu l'homme et la femme se déchirer. Faisons la paix, séchons nos larmes. Nous vivons une époque troublée. On avorte, on divorce, on se drogue, on se réfugie dans la violence. Au lieu de ça, sous le toit d'une modeste chaumière, au sein d'une brave population qui se lève avec le soleil, que trouvons-nous? Deux hommes, simples et bons, qu'unit la plus fraternelle des amitiés. Que demandent ces hommes? Un peu de silence? Faut-il les mettre au pilori? Mes sœurs, un peu de charité chrétienne! Je les ai vus les premiers jours. Ils faisaient peine à voir. Deux hommes lézardés, qui se sentait craqué de toutes parts. Juste un peu de silence. Voilà ce qu'ils ambitionnent, le recueillement, la méditation. Retrouver sous leurs pas ce qu'ils avaient oublié depuis si longtemps, la terre, la bonne terre, chaude, grasse, que Dieu a destinée à la vigne.
À propos des instrumentistes, finalement, dans un certain nombre de films entre les années 70 et début 80, vous avez souvent travaillé avec des gens comme Maurice Vander ou Eddie Louis, ou enfin, en tout cas des solistes français notamment, qui étaient plutôt des gens très bons.
Après la crème,
voilà. Il y a des bons. Et qui finalement apparaissent souvent dans des bandes originales, d'ailleurs, dans les films, musiques de films de l'époque, d'ailleurs. Mais c'est vous qui choisissez, c'était plutôt les compositeurs ou vous qui aviez.
Non, c'est pas moi, c'est le compositeur qui choisit son équipe en général. Enfin, un jour, j'ai vu arriver Kenny Clarke, par exemple, qui est à une séance, je sais plus dans quel film c'était, c'était bouleversant, c'est toute l'histoire du jazz, quand même. Ce petit monsieur avec ses batteries, tout ça, fantastique.
Bertrand Blier.
Une simplicité extraordinaire.
Mais c'est important quand même aussi là, pour le son, surtout quand il s'agit de musique jazz, c'est quand même très important. L'instrumentiste donne une couleur particulière.
Oui, mais j'ai eu des rêves de musique de film avec des gens que j'ai jamais pu aborder parce que je n'ai pas fait assez de films. Mais j'aurais rêvé de faire un film avec Errol Garner, par exemple. J'aurais fait improviser à l'image. Ça aurait été extraordinaire. En plus, ça aurait été très marrant. Des gens comme ça, comme j'ai pas fait assez de films pour eux, ils sont morts, et tous.
C'est-à-dire qu'il aurait fallu les prendre vraiment
quand vous étiez
au début.
Oui. Ah oui, Errol Garner. Il a fait un film, il y a une musique d'Errol Garner dans un film américain, je crois que c'est Airport One. Et je crois que c'est Misty, mais je suis pas sûr. Un truc extraordinaire. Tous les films deviennent bouleversants si vous mettez ça dessus.
Ça veut dire que vous pensez que de toute façon que la musique a presque une primauté sur l'image, alors?
Non, mais ça aide bien, ça peut aider. Ça, j'ai beaucoup appris avec ça, en faisant des films où parfois j'avais pas la musique, ou parfois j'avais la musique avant. Et donc, par exemple, l'exemple dont je parle le plus souvent, c'est « Trop belle pour toi », qui est un film extrêmement musical, puisqu'on a du Schubert pratiquement sur tout le film. Et je l'ai monté avec des disques, le film était immontable. Et donc, il y avait des moments, ça passait pas du tout. Alors, je mettais un morceau de piano ou un quatuor et tout, et hop, c'était la grâce. Pas toujours, mais très souvent. Et maintenant, je me méfie de ça parce que je crois que dans certains films, j'ai été amené à couper des scènes injustement parce que j'avais pas la musique. Et que parfois, on est trop sévère, on coupe trop. Et après, on regrette parce qu'on se dit, ah oui, si j'avais eu... la musique à ce moment-là, peut-être que la scène aurait été formidable.
Thank you.
le son magnifique de l'orgue d'Eddie Lewis pour cette balade pour Bertrand avec une rythmique de luxe, bien sûr, Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie. Kenny Clarke que Bertrand Blier évoquait juste avant. Il a été beaucoup question de jazz, notamment dans cette séquence Bertrand Blier liée précisément à des musiciens qui ont beaucoup œuvré dans le jazz. On a écouté un extrait de Calmos auparavant avec la voix de Bernard Blier, le père du cinéaste qui a parfois travaillé avec son fils, notamment dans Si j'étais un espion ou dans Buffet froid. Si j'étais un espion, il va en être question dans pas très très longtemps. Auparavant, un extrait de la musique de Calmos, Les joies du maquis, une musique signée Georges Delerue avec le contrebassiste chantant Slam Stewart, notamment, qui en était un peu le soliste de luxe lui aussi. Il y avait également Maurice Vander au piano et Daniel Humer à la batterie, par exemple, toujours d'excellents musiciens. J'avais oublié de signaler que le morceau qu'on a entendu donc à l'instant, il était signé Philippe Sard, et que c'est d'ailleurs un morceau qui ne figure dans aucune bande originale puisqu'il a été enregistré au moment des séances de Beau-Père. Alors je reprends le fil conducteur des morceaux que vous avez pu écouter pendant cette séquence. Avant Georges Delerue, Slam Stewart pour Calmos, il y avait Miles Davis, Barney Whelan et toujours d'ailleurs Kenny Clarke et quelques autres pour Florence sur les Champs-Élysées, extrait de la BO mythique d'Ascenseur pour l'échafaud, et auparavant encore un musicien non moins mythique, enregistré en 1951 sur le label Blue Note. Il s'agissait de Sidney Bechet pour un Black and Blue remarquable, donc en 1951, un tout petit peu avant sa période parisienne, puisque Sidney Bechet a existé bien évidemment bien avant d'habiter à Paris. C'était voilà les musiques que vous avez pu entendre dans cette séquence autour de la parole de Bertrand Blier, donc, que j'ai rencontré pour l'occasion de cette émission et de la suivante, deux émissions donc consacrées à Bertrand Blier et à son lien à la musique. On va le retrouver tout de suite, Bertrand Blier, et cette fois-ci, il nous parle de Serge Gainsbourg.
France Musique.
On peut revenir un peu dans le fil chronologique à Gainsbourg. Donc ça, c'est pour le deuxième film, Si j'étais un espion, qui est un film que je crois que vous n'aimez pas énormément parmi ceux
c'était
que vous avez fait.
C'était un film à mon devoir de vacances de jeune homme. Il fallait que je fasse, après Hitler connaît pas, il fallait que je fasse un film un peu normal, c'est-à-dire avec des gens qui marchent dans les rues, des voitures, etc. Bon. Donc j'ai fait une espèce de film d'espionnage sérieux. Et les films d'espionnage sérieux, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du cinéma d'un seul qui ait marché. Ça a été un gros échec. Mais c'est avec ce film-là que j'ai connu Serge Gainsbourg, qui à l'époque n'était pas encore le grand Gainsbourg, et avec son arrangeur Michel Colombier, qui était génial. Et on a fait une séance d'enregistrement assez dantesque, oui.
Maintenant, c'est le genre de musique qui sont devenues cultes, en fait, parce que c'est des musiques qui font fantasmer les générations d'aujourd'hui.
Oui, je ne me rends pas compte, je ne sais pas.
Pourquoi vous aviez demandé à Gainsbourg à l'époque, qui avait fait quelques musiques de films, effectivement, mais...
Je ne sais plus, il était dans le vent, quand même, hein. on aimait ses sonorités. Ses...
Bertrand Blier.
Est-ce qu'il avait fait déjà le... Non, il n'avait pas rencontré de Gene, hein. Si, quand... non, c'était il n'avait pas rencontré avant. De Gene, c'était avant, oui. C'était Bardot à l'époque.
C'est ça.
Oui. Enfin, il y avait déjà des musiques qui sont devenues célèbres par la suite qu'il avait écrites. Non, je ne sais pas pourquoi je suis allé le voir, mais j'avais raison, de toute façon. C'était le meilleur. Il a été le meilleur, quand même. Quand je l'ai retrouvé après, c'était... Il m'a refusé les valseuses, quand même.
Mais c'est ça, j'allais vous poser la question, oui. Parce que vous êtes exprimé là-dessus dans certains entretiens, oui. Et j'ai lu que vous avez... Enfin, il y avait deux explications un peu qui n'étaient pas exactement les mêmes. D'une part, qu'il aurait été choqué par le film, d'autre part, qu'il ne voulait pas intégrer Grappelli dans sa musique, puisque vous vouliez Stéphane Grappelli.
Je pense qu'il ne pouvait pas être choqué, parce que ce n'était pas un mec qui se laissait choquer facilement. Et ensuite, mais il a vu le film terminé, donc avant, enfin, en bout à bout, mais sans musique, évidemment, mais... quand je lui ai dit que je pensais à Grappelli, que je voulais le son de Grappelli, je ne voulais pas demander à Grappelli de faire la musique. Ça l'a pas branché. Et il m'a dit non. Alors il a trouvé des fausses excuses, mais après on s'est retrouvés. Mais il disait toujours dans la même année, j'ai refusé les valseuses et Emmanuel. Très mauvaise opération.
Thank you.
dire, après, il y a tenue de soirée, donc, dans les années 80.
Alors là, sans problème. Là.
Qui était d'une autre histoire. Il ne travaillait plus avec Colombier, puisqu'il était... mais avec Jean-Pierre Sabar.
Il avait... c'était son époque... c'était une époque difficile pour Serge, parce que les séances étaient quand même houleuses. Mais bon, c'était un... c'était le rêve pour un metteur en scène. Mais il foutait rien. Il a enregistré... la veille de l'enregistrement, c'est-à-dire le dimanche soir, avant d'enregistrer le lundi, il me dit, est-ce que vous pouvez venir, j'ai écrit quelques thèmes. Alors j'arrive chez lui, et il avait tous les instruments les plus sophistiqués, des synthétiseurs partout, des ordinateurs et tout. Mais il avait un petit dictaphone japonais qu'il avait posé sur son Yamaha, et il avait enregistré des thèmes comme ça, en jouant du piano, et il avait enregistré 42 thèmes.
Bertrand Blier.
Et tous formidables. Et il m'a dit, bon, ben, c'est vous qui allez vous en occuper, vous me direz quel thème. Alors, moi, c'est le boulot, mais bon, 42 thèmes, fallait savoir comment les organiser ça. Donc, on a enregistré comme ça, au petit hasard, ce qui venait. On en a enregistré beaucoup trop, d'ailleurs. Mais...
parce que là, il y a une nouvelle édition de la musique.
Oui, avec des bonus. Oui.
Ah, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le film.
Non. Non, mais on enregistrait un truc pendant 4 heures, et puis on. Il me regardait, il me disait « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Oh, je disais « C'est pas le meilleur. » Alors il me disait « Poubelle. » Et hop, ça partait. C'était destruction.
Parce qu'en fait, on a surtout retenu le thème principal du film, donc qui s'appelle, je crois, « Travelling » dans le disque, mais il y a plein d'autres. En fait,
oui,
il y a d'autres thèmes, en tout cas.
Il y a plusieurs thèmes, oui.
Il était dans un état qui lui permettait de travailler correctement à cette époque-là, parce que l'alcool était déjà quand même...
Oui, mais enfin, c'était des journées... ça se faisait tout seul, parce que c'est des enregistrements de musique avec des boîtes à rythme, avec des choses... Bon, alors, il y avait 4 heures d'enregistrement de rythmique, déjà, pendant lesquelles il n'avait rien à faire. Et puis, vers 17h, il tapait un peu sur le piano. Il y avait un musicien qui arrivait. C'est une façon de... J'ai découvert ça, une façon très industrielle de faire de la musique. Pas du tout comme Delru, quoi. Delru, c'était l'Orchestre de Paris, c'était bon. Mais Serge, c'était du bricolage génial, quoi. Comme font tous les mecs aujourd'hui, maintenant. Enfin, déjà à l'époque.
Thank you.
commencez à travailler sur un film, vous pensez déjà un peu à la musique ou ça vient beaucoup plus tard
Non, ça vient en général. Je pense que ça vient tôt et je pense qu'il faut que ça vienne tôt. Même si on fait autre chose, mais on ne sait pas quelle musique on va mettre. Parfois, je le sais, mais bon, trop belle, évidemment. Mais la plupart du temps, je n'ai pas su. Et puis, je sélectionne des choses. Je suis un gros collectionneur de disques. J'en ai acheté beaucoup. Maintenant, je me suis calmé, mais j'en ai acheté beaucoup. Et souvent, des choses comiques ou un peu ridicules, un peu grotesques. J'ai des choses abominables que je garde précieusement comme des trésors en me disant un jour, je vais leur mettre ça, je vais leur mettre ça, c'est pas possible. Et donc, et c'est ce qui m'arrive souvent. Alors, j'ai un grand couloir où j'ai fait construire une espèce de bibliothèque à CD. Et je me mets par terre à quatre pattes là et je passe 3-4 heures à chercher les disques, faire des piles. Et après, j'écoute en écrivant le scénario. Ou alors, je les apporte au montage après. Et on essaye des trucs hallucinants. Mes monteuses se hurlent de rire. Mais bon, de temps en temps, il y a une merveille. Alors, c'est surtout dans la variété que j'aime bien taper.
Bertrand Blier.
Et il y a des choses, on est, je ne suis pas le seul à faire ça, mais on peut avoir un très bon Julio Iglesias qui va arriver pile sur une scène d'émotion pour décaler un peu, apporter l'humour, des choses comme ça, et il faut les avoir, quoi. Et puis il y a toutes les musiques des films qu'on n'a pas fait. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un film, on achète des disques, parce qu'on se dit, tiens, il y a du tango, alors hop. 70 de tango, bon, puis après on les utilise pas.
Vous tombez mal, les gars. J'inaugure mon port d'armes. Parce que figurez-vous, c'est la troisième déesse qu'on me fauche en moins d'un an. Alors je commence à en avoir plein le cul, vous comprenez?
Bon, on l'a pas volé, hein? On l'a emprunté. La preuve, c'est on la ramène. La voilà, intacte. À la même place que tout à l'heure, elle a pas bougé.
T'expliqueras ça aux flics. Tu peux aller leur téléphoner.
Non, attendez, merde, c'est trop con. Ça mérite pas les flics. Bon, on a fait de mal à personne. On a juste été faire un tour, histoire de tuer l'après-midi du dimanche. C'est comme si vous nous aviez pris en stop. Pareil, comme si vous nous aviez ramassé sur le bord de la route. Sauf que vous étiez pas là, voilà. C'est la seule différence.
Y a pas de quoi en faire une vérole, avouez. On vous a juste bouffé un peu de super. On n'a pas abîmé, il n'y a pas une éraflure, rien. Hein? Si, il y a le ralenti qui a besoin d'être réglé, mais ça, c'est pas grave. Si vous voulez, moi, je vous le fais tout de suite, j'ai un tournevis sur moi. Il suffit d'une minute.
Vas-y, les écoute pas. Sinon, dans 5 minutes, tu vas te mettre à chialer tellement ils sont émouvants.
Non, mademoiselle, non, attendez, écoutez.
En l'air, les mains, j'ai dit.
Oh, Cardenas, vous avez besoin de la police?
Ouais.
Je les appelle.
Non, attendez. Non, avant de porter plainte, il faut que vous sachiez un truc. Mon copain et moi, on a déjà eu une histoire il n'y a pas tellement longtemps dans un presse unique avec les flics et tout. Alors, on est comme en sursis. Hein. Prochain coup, on est bon pour la tôle.
Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On n'a pas envie.
Pauvre petit con. Moi, je vais vous y conduire en tôle.
Si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous.
Il n'y a pas d'erreur possible. On est bien en France.
Attention!
Si on revient aux valseuses, là vous aviez donc pensé à Grappelli très tôt, alors, parce que c'est pas une idée tout à fait évidente si on réfléchit aux valseuses comme ça. Bon, 73, enfin j'imagine que vous avez dû tourner le film en 72, bon c'est pas la musique qui est tellement dans l'air du temps.
Du tout.
Pour un film qui est plutôt un film maintenant identifié comme un film un peu générationnel, enfin voilà, donc l'idée de Grappelli elle est un peu
non,
dans le décalage.
Non mais je pense que j'ai eu l'idée avant en écrivant le scénario déjà, j'écoutais du Grappelli beaucoup et j'étais sûr de ça. J'ai été sûr du violon de Grappelli, qui était le plus grand violoniste. Et donc, je ne savais pas exactement comment on allait l'utiliser, mais je savais que ce serait lui. Et donc je l'ai contacté, et puis j'ai fait le film. Et quand j'ai parlé à mes acteurs, à Patrick, Gérard et Miu Miu, je leur ai dit que j'allais prendre... Qu'est-ce que tu vas... Ils me demandaient sans arrêt, qu'est-ce que tu vas mettre comme musique? Alors je disais, je sais pas, je faisais semblant de pas savoir, parce que je me disais, ils vont hurler. Et donc ils ont hurlé, en effet, quand ils ont dit... je leur ai dit, c'est Stéphane Grappelli. Ah bon, mais c'est qui? C'est un grand violoniste. Quoi? Tu vas mettre du violon sur un film pareil? Et puis bon, quand ils ont vu le film, ils ont été convaincus, mais... Je pense que c'était une démarche vraiment très intéressante de ce décalage entre deux mondes culturels complètement différents. C'est-à-dire un film qui était quand même extrêmement à la limite de l'éventration, quoi. C'était un film très violent, à l'époque très contemporain, et une musique désuète presque de bal à Vichy, quoi. Parce que Stéphane, il était très vieux quand il a fait la musique des valseuses. Ça, je trouve que c'est une démarche qui est à citer en exemple, parce qu'au cinéma, il ne faut jamais faire pléonasme, il ne faut jamais avoir la musique qui colle exactement avec ce qu'on raconte. Enfin, ça, c'est le défaut des Américains. Mais nous, en France, on a moins d'argent qu'eux, mais on sait mieux faire ça. Thank you. Bah, j'utilise pas trop de musique quand même. J'en mets pas des torrents. Hein. Donc quand il y a une scène de dialogue, place au dialogue. Mais il y a des musiques qui peuvent se glisser par derrière. Et puis j'ai des mixages difficiles. Hein. J'ai des mixages qui sont à la limite de la tauromachie quand même. Quand il y a un quatuor à cordes en même temps que des acteurs qui gueulent, c'est du sapin. C'est un des trucs un petit peu désespérants dans le cinéma, c'est qu'on ne peut pas utiliser de musique, vraiment de la musique contemporaine. C'est-à-dire que j'ai vu ça avec Du Sapin, qui est un type merveilleux, avec qui je me suis très bien entendu, mais c'est de la musique qu'on a achetée et qu'il avait composée pour autre chose. Et donc, quand j'ai mis du Sapin, je me suis dit, bon, ça va pendant 10 minutes. Mais un film entier comme ça, les gens partent en courant. Hein. Donc on ne peut pas utiliser ces musiques-là. Ou alors on fait un cinéma expérimental, mais qui va le financer parce que...
Bertrand Blier.
Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des choses belles qui sont faites en même temps qu'on parle, là, et qui ne peuvent pas être utilisées au cinéma. Au théâtre, oui. L'opéra, oui. Mais au cinéma, non. Le cinéma, c'est populaire et il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait du confort, il faut qu'il y ait d'une certaine manière un peu de confort. Alors si les images sont très violentes, très abruptes, il faut un peu de confort à côté, c'est l'oreille, c'est la musique. C'est... Parce que si on additionne tout, on peut fermer les salles.
Louisa, il y a quelqu'un qui a sonné.
Je comprends pas, il y a personne.
Comment ça, il y a personne? Quand il y a quelqu'un qui sonne, en général, il y a quelqu'un. Même plus moyen de picoler tranquillement.
C'est à quel sujet?
Je voudrais parler à Monsieur Faulk. Monsieur Charles Faulk.
Il n'est pas là.
Je reconnais votre voix. Je vous ai déjà vu à la télé.
Je voudrais savoir ce que vous me voulez.
Je suis votre cancer.
Ah bon?
Bah oui. Je me disais que ça serait peut-être pas mal qu'on fasse un petit peu connaissance.
Bah oui, moi je suis en train de boire un coup, là.
On pourrait le boire ensemble.
Bah revenez un autre jour. Aujourd'hui, c'est pas le bon. Non mais sans blague.
Je me permets d'insister, c'est parce que je suis dans la région. Mais si vous voulez, on peut se voir sur Paris.
Je vais plus à Paris.
Peut-être je vous dérange. Vous êtes en train d'écrire.
Depuis que ma femme m'a quitté, je n'écris plus un mot.
Je vais pas pour longtemps. Au maximum 3 mois.
Monsieur parle tout seul maintenant?
Monsieur parle tout seul.
Va
quand même pas me buter, ce con-là.
Excusez-moi, j'arrive à l'improviste. J'aurais pu vous prévenir, mais en fait, j'aime pas trop prévenir. Je suis un mec qui débarque. Je suis sans gêne. Je suis familier. C'est marrant, d'ailleurs, personne ne me fout jamais dehors. Je dois avoir quelque part quelque chose de sympathique. Vous aussi, vous êtes sympathique.
Les voix de Jean Dujardin, Albert Dupontel et la musique de Pascal Dussapin, 3D, si je puis dire, pour l'ouverture du film Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, son dernier long métrage jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, il a un nouveau projet qu'il tournera sans doute en 2015. Et la voix de Bertrand Blier, on l'a entendu à plusieurs reprises, bien sûr, dans cette longue séquence où il était notamment question de Serge Gainsbourg et Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli qui avait signé la balade, le thème principal des Valseuses, bien sûr, en 1973, les Valseuses dont on a entendu un extrait avec notamment les voix de Patrick Devers et Gérard Depardieu, le film le plus célèbre de Bertrand Blier, son plus gros succès jusqu'à nouvel ordre. Serge Gainsbourg avait composé l'extrait de la musique de Tenue de soirée, Trave, qui donc figure dans la nouvelle édition de la bande originale de Tenue de soirée qui vient de paraître chez Music Box Records, et on a pu écouter cet extrait. Et puis auparavant encore, toujours Serge Gainsbourg, Breakdown Suite 1, cet extrait de la bande originale de Si j'étais un espion, le deuxième long métrage de Bertrand Blier, avec son père d'ailleurs dans le rôle principal, Bernard Blier, bien sûr. Et voilà, Serge Gainsbourg, Bertrand Blier, Stéphane Grappelli, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouvera Bertrand Blier la semaine prochaine, le 1er janvier, donc le premier jour de l'année 2015, pour une nouvelle salve, un deuxième épisode des aventures musicales et existentielles et cinématographiques de Bertrand Blier, que je remercie de s'être prêté à l'exercice pour Cinéma Song. On est tout à fait ravis de l'avoir comme invité d'honneur pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine. Ce soir, j'étais en compagnie de Valérie Lavalard qui assurait la technique. Bruno Rioux-Maillard, l'excellent Bruno Rioux-Maillard, était à la réalisation. Et c'est Dorothée Gold qui m'avait, comme chaque semaine, aidé à préparer cette émission. Je vous laisse en compagnie de Anne Montaron et de son Alabrévé. Bonsoir.